En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Aujourd'hui, notre invité est Jimmy Adjovi-Boko, ancien joueur mythique du RC Lens, qui œuvre depuis de nombreuses années dans l'éducation et la formation de la jeunesse africaine. Durant notre discussion, nous allons aborder de nombreux sujets. Le concept de l'Académie Diambars, qu'il a créé au Sénégal avec Bernard Lama, CR Seck et Patrick Vieira. En 15 ans, cette académie est devenue une référence en matière de sport et d'éducation, en Afrique comme en France. Nous allons aussi discuter de l'importance du sport, que ce soit dans le développement économique, la mobilisation ou encore l'appui social à la jeunesse. Enfin, Jimmy, qui a été membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique créé en 2017 par Emmanuel Macron, nous partagera sa vision sur la relation franco-africaine et sur le développement du foot en Afrique. Et vous allez voir qu'avec Jimmy, Lens n'est jamais très loin. Ce club qu'il a indéniablement dans sa peau. Bonne écoute. Bonjour Jimmy, comment vas-tu?
Parfaitement bien.
Oui. En fait, là, comme je t'expliquais avant d'enregistrer, moi, ça fait 2 mois que j'ai lancé ce podcast de discussion avec des acteurs du foot. Et je me suis rendu compte, en parlant notamment avec Pascal Lafleuriel qui est en Centrafrique, avec Ludovic Debru qui est à la FFF qui développe plein de projets à l'international, ou avec Corentin Martins qui est le sélectionneur de la Mauritanie, que l'Afrique revient tout le temps dans nos récits. Dès qu'on parle avec des acteurs du foot français qui partent à l'étranger, il y a l'Afrique qui arrive. Donc aujourd'hui, je suis très content de t'avoir. Toi qu'on peut considérer comme un ambassadeur de luxe entre la France et l'Afrique. Merci beaucoup d'être là.
C'est un plaisir.
Je vais te laisser te présenter et commencer un peu notre voyage comme ça, si ça te va.
D'accord. Alors, Jean-Marc Adjovi-Boko. Donc, j'ai été footballeur professionnel pendant 13 ans en France, capitaine de l'équipe nationale du Bénin. Je suis né au Bénin en 63, donc j'ai 57 ans, 58. Mais j'ai quitté le Bénin à l'âge de 2 ans. J'ai grandi en France. Et je suis retourné au Bénin pour jouer pour l'équipe nationale à l'âge de 33 ans.
Ok. Ah, tu n'étais pas retourné entre 2 et 33 ?
Du tout. Okay. Donc, j'étais retourné en Afrique, plutôt au Sénégal, mais je n'étais jamais retourné au Bénin. Donc, j'ai fait une carrière en France à Amiens, Rouen, Tours. Après Tours, j'ai fait Lens pendant 6 ans. J'ai fini ma carrière en Écosse, Hibernian, où j'ai joué une année avant de prendre ma retraite. J'ai pris ma retraite en 98. J'ai repris des études. J'ai fait SCEMA, donc l'École supérieure de commerce de Lille, pour mettre en place le projet Diambars, donc au Sénégal, avec Patrick Vieira, Bernard Lama et Saïr Seck. Juste pour terminer, j'ai été en 2017 appelé par le chef de l'État, Emmanuel Macron, pour faire partie du CPA, du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui a pour mission d'aider le chef de l'État à reconstruire une relation différente avec le continent africain. Et il y a un an, j'ai démissionné du CPA pour prendre des fonctions auprès du ministre des Sports du Bénin, parce que le chef de l'État, je trouvais qu'il avait une vision assez extraordinaire, avec une vraie stratégie, un vrai projet. Et voilà, il était temps, c'était le moment pour que je m'engage avec mon pays.
Bon, génial. Voilà. En tout cas, merci pour cette intro. Elle était super claire. Donc, on va commencer par ce côté franco-africain que tu as depuis tout petit. Donc, si on rentre un peu dans le vif du sujet, toi, tu es arrivé à 2 ans. Dans quelles conditions, si on peut en parler?
Mon père venait faire ses études d'ingénieur ici en France. Ma mère, assistante sociale. Voilà, né au Bénin, d'une grande famille, on était 8. J'ai un frère et 6 sœurs.
Okay. Voilà. Vous êtes tous venus? Ou non, il y en a beaucoup qui sont nés ici après.
Ouais. Voilà, j'ai en fait mon petit frère et ma petite sœur sont nés en France.
Et tu as grandi dans cette double culture en étant en France avec tes parents béninois?
Voilà, c'est Certains qui ont cette double culture ont des problèmes d'identité et se sentent ni l'un ni l'autre. Et moi, j'ai pour habitude de dire que j'ai la chance d'être et l'un et l'autre. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur deux cultures, une culture béninoise et une culture française. Et c'est une richesse incroyable.
Et ça, depuis tout jeune, tu as toujours senti, pris ça comme une richesse, ou à un moment, tu as dû te poser des questions pour arriver à ça?
Je fais partie de ceux qui ont eu la chance, parce que c'est une chance, de ne pas avoir à s'en poser. C'est-à-dire que j'ai. Et c'est le sport qui nous a permis ça. Peut-être que ça aurait été différent si on n'avait pas eu le sport pour s'épanouir. C'est-à-dire que on a eu mes sœurs et mon frère. On a tous fait du sport de haut niveau, de l'athlétisme. Et pour nous, le sport a été un moyen d'intégration. Vous savez, quand dans les années 60, vous arrivez dans un village de 3000 personnes, on était la seule famille noire, ça aurait pu ne pas être facile. Mais le sport qui était, voilà, l'athlétisme, on a tous été pratiquement. Ou peut-être, j'ai peut-être deux sœurs qui ne l'ont pas été, mais sinon on a tous été au moins une fois champion de France. Donc on était, voilà, on faisait partie des personnalités, entre guillemets, du village, donc ça aide. Puis voilà, honnêtement, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui était plutôt favorable à l'épanouissement.
Oui, parce que j'en parle beaucoup de ce sujet, parce que moi je suis d'origine argentine, mais donc mes deux parents argentins, et c'est vrai que moi, on m'a jamais posé la question d'où je venais, parce que je suis blanc, mais oh, alors que y a des petits qui sont nés en France de parents français, et à eux par contre, on va leur poser tout le temps la
Mais
question.
c'est honnêtement, c'est il faut pas en faire quelque chose de faut pas se compliquer ou voir des problèmes là où il y en a pas. Je veux dire, quand on est noir ou quand on est arabe ou quand on est asiatique et qu'on vit en Europe, je peux comprendre que les gens demandent d'où on vient. Pour moi, après, c'est ce qu'il y a derrière.
Ouais,
C'est ce qu'il y a
comment?
derrière. Voilà, c'est moi, quand je me promène dans la rue et qu'un enfant me montre du doigt parce que je suis différent, c'est pas un problème. C'est juste qu'il a peut-être jamais vu. Enfin voilà, c'est ça. Après, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que les parents élèvent leur. Parce que tout est une question d'éducation. Est-ce que les parents élèvent les enfants en disant, voilà, les gens différents sont des gens inférieurs, ou les gens différents sont juste des gens différents?
Donc, tu as déjà dit le mot, ça fait 5 minutes, on a commencé, tu as dit le mot éducation, parce que je pense qu'on va le dire souvent, parce qu'il est important dans ta carrière, on verra que c'est
C'est
la
la
base
base
de tout.
de tout. C'est la base de tout, on est d'accord.
Et donc, après, tu as fait une carrière très connue pour tes années à Lens, où c'est la fameuse. Tu vas voir qu'on va toujours jongler entre le foot et ce qu'il peut y avoir à côté du foot. Donc, et tu as été professionnel, ou tu as joué pour la première fois en première division à 28 ans. C'est un peu.
En première division, effectivement.
Ouais.
Pas professionnel.
Pas professionnel, parce que tu étais déjà professionnel avant, mais en première division. Et est-ce que ça a été toujours un objectif?
Non, ça n'a jamais été un objectif. Même le fait de devenir professionnel n'a jamais été un objectif. Ça m'est tombé dessus. En fait, j'explique souvent, mais le football, pour moi, c'était juste un jeu.
Ah ouais.
Je jouais au football depuis la maternelle, en sortant de l'école avec les copains du village. Voilà. Et puis, bon, comme j'étais un athlète et que je me débrouillais pas trop mal avec le ballon, bon, voilà, je faisais partie des bons joueurs. Je me suis mis à jouer au football véritablement en club assez tard, à l'âge de 12-13 ans, juste en minime, ouais, c'est ça. Je suis passé par une phase où le sport était, enfin le football était vraiment juste le moyen de passer des bons moments avec les potes. C'était ça. Jusqu'au jour où en deuxième année de minime, deuxième année de minime, on joue contre le club référent qui était Chantilly, où on sortait tous les grands joueurs, et l'entraîneur. On joue un match de Coupe de Picardie, et je tiens l'équipe d'Ory-la-Ville, qui était le tout petit club. Je le tiens un petit peu à bout de bras. Et puis, donc à la fin du match, il vient me voir en me disant « j'aimerais que tu viennes à Chantilly ». Et moi, je lui réponds « je ne vois pas pourquoi j'irai à Chantilly. Moi, mes potes, ils sont là, quoi ». Et il n'a pas compris que je puisse lui répondre à ça. Et je n'y suis pas allé parce que ça ne m'intéressait pas. J'avais pas l'intention. Enfin, pour moi, le football, c'était juste passer un bon moment avec les copains. Et l'année d'après, j'ai eu la chance, donc en première année cadet, je faisais mes études en seconde à Creil et j'ai rencontré en fait un des joueurs qui jouait à Chantilly et qui m'expliquait, qui jouait en championnat de France cadet, qui m'expliquait tous les déplacements qu'il faisait avec le maillot Coca-Cola et qui me faisait rêver, quoi. Et puis à la fin de l'année, je dis écoute, ça me plairait bien. Et du coup, je suis rentré à Chantilly où j'ai fait une super carrière en cadet nationaux. Tout en faisant mes études dans le sud de Paris, à Air France, dans l'aéronautique. Et je m'entraînais qu'une fois par semaine, alors que les autres avaient 3 ou 4 entraînements. Mais comme j'avais des aptitudes physiques et que je m'entraînais tout seul contre un mur dans mon école dans le sud de Paris, et puis je courais, j'ai fait une belle saison où j'ai été titulaire toute la saison.
Et après, tu as fait ta carrière surtout en...
Après, comme j'étais dans le sud de Paris et que ça m'ennuyait de ne pas m'entraîner, lors de ma dernière année, ma troisième année d'études, j'étais junior deuxième année. Le Paris Saint-Germain-Saint-Germain-en-Laye, ce n'était pas trop loin. Du coup, j'ai signé au Paris Saint-Germain et j'ai joué en junior au Paris Saint-Germain.
Tac, 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 on lance. Lance, ta carrière à Lens qu'on connaît et que les Lensois se rappellent aussi très bien. Et après, tu as eu une année, on va en parler rapidement, parce que pour parler après des autres sujets, mais une année en Écosse. Donc la première fois aussi, tu partais, en tout cas pour le travail, pour le foot, tu sortais de France.
Oui, alors pourquoi l'Écosse? J'ai arrivé à 34 ans, c'était ma fin de carrière, et j'ai toujours adoré le football anglais, enfin anglo-saxon. Et j'ai essayé d'aller en Angleterre, et puis c'était un moment où le football français n'était pas vraiment très reconnu. Et j'ai eu une opportunité en Écosse, j'y suis allé, et je ne le regrette pas parce que j'ai vécu une année exceptionnelle. Pas d'un point de vue sportif, parce qu'on est descendu,
ah ouais.
Mais d'un point de vue humain... Le club Hibernian où j'ai joué, c'était un club extraordinaire, des passionnés. Et puis, je me suis éclaté. J'étais élu meilleur arrière-gauche des 25 dernières années du club. Et j'ai encore aujourd'hui des relations avec les supporters là-bas qui sont extraordinaires.
C'est marrant que dans les deux clubs, en tout cas, si on regarde Lens, t'as eu des relations un peu uniques, privilégiées avec les supporters, non?
Oui, parce que l'un comme l'autre, en fait, ce sont des clubs où les gens reconnaissent la valeur du travail. Là-bas, en Écosse, vous êtes défenseur, vous faites un tacle, le public est debout. À Lens, c'est pareil, vous débordez, vous allez tacler, le public aime ça. Et c'est cette reconnaissance du travail. Et ça correspond à mes qualités et à mes valeurs. Et aussi autre chose, c'est que dans le Nord-Pas-de-Calais comme en Écosse, les gens aiment les gens. Et c'est vrai que j'ai une faculté à aller vers les supporters. Et ça, c'est très très bien passé en Écosse comme dans le Nord-Pas-de-Calais.
Et après, donc, c'était à quel moment où tu as commencé à t'imaginer, parce que, donc, à essayer de créer une académie, après on va y venir, mais à quel moment t'as réfléchi un peu à ton après-carrière?
C'est pas du tout à la fin. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours pensé à l'après. Pour la bonne et simple raison, c'est que je me suis toujours dit la carrière peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc j'avais la chance d'avoir fait des études, d'avoir eu un boulot dans l'aéronautique. J'étais électronicien sur instrument de bord sur Airbus et Concorde. Et je me suis toujours dit, si ça s'arrête, qu'est-ce que je fais? Et en fait, tout au long de ma carrière, je me suis aperçu qu'on avait la chance de rencontrer des partenaires dans plein de domaines, des sponsors du club qui auraient même presque payé pour que vous veniez dans leur entreprise pour rencontrer les gens. Ou... Donc moi, ce que je faisais, c'est j'allais voir les notamment dans l'informatique, parce que j'étais attiré par l'informatique, j'allais voir les partenaires et je leur demandais de faire des stages dans leur entreprise. Et ça leur semblait complètement incongru. Et moi, je me disais, c'est une chance extraordinaire que de pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise, de pouvoir et de préparer comme ça la suite. Et c'est comme ça que j'ai préparé mon après-carrière. Et à la fin... À la fin de ma carrière, j'ai repris des études. Je le disais tout à l'heure, à l'ESC Lille, enfin à Schema, pour mettre en place un projet. Parce que je me disais que pour pouvoir mettre en place un projet ambitieux, il fallait avoir les connaissances, l'expérience, l'expertise. Et,
Ok. Tu as fait une formation, c'était dans le management du sport ou c'était dans le management ?
Pas du tout. C'était une école de commerce et on commençait à l'époque à peine à former les... On n'avait pas encore de formation de manager.
Ouais.
Donc c'était il y a plus de 20 ans. Donc je pense que je faisais partie des premiers dans le domaine. Et,
c'est là où... t'as réfléchi, t'as vraiment voulu développer Diamba.
Alors voilà, ça a été avant de terminer ma carrière. On en parlait avec Bernard Lama, qui était un ami, qui est un ami, qui j'ai joué à Lens, et qui est resté un ami, un grand frère. Et Saersek, qui est un opérateur économique dans la pêche au Sénégal, qui est président de la fédération... vice-président de la fédération et président de la Ligue professionnelle de football au Sénégal, donc qui est le quatrième membre fondateur. Donc il y a Patrick Vira, Bernard Lama, Saersek et moi. Et on en parlait, Patrick est arrivé après, on l'a sollicité, mais avec Bernard, parce qu'on en parlait pendant que j'étais encore joueur avec lui, on parlait de ce qu'on allait pouvoir faire après. Et avec Saer, j'allais souvent en vacances là-bas et on parlait de la formation des jeunes. Voilà. Donc je suis arrivé à me dire, pour pouvoir répondre à cette problématique de formation de jeunes, à un moment où il y avait pas mal de transferts de jeunes footballeurs africains en Europe, pas toujours dans les meilleures conditions.
C'était en train de prendre une vitesse, non ? Ces échanges internationaux de joueurs africains qui venaient, c'était en train d'arriver à un autre niveau.
Surtout, en fait, c'était de... Avant, ça se faisait, et ça se faisait de plus en plus mal, je dirais.
Okay.
Voilà. Et pour nous, la réponse à ces transferts de jeunes footballeurs... ou même ça frisait le trafic... c'était de mettre en place sur notre continent les conditions pour que les jeunes puissent se former, puissent être formés dans les mêmes conditions qui peuvent être formés ici en Europe. Et pour moi, c'est au-delà du football, c'est la réponse à ces problèmes d'immigration. Tant qu'on n'aura pas compris que pour pouvoir freiner cette immigration, il faut qu'on puisse avoir dans les pays d'origine un cadre et les conditions de développement et d'épanouissement de notre jeunesse. Et voilà, donc le projet, c'était répondre à ça. Et on a commencé, on a créé l'association en l'an 2000, et j'ai créé l'association au moment où j'étais encore sur les bancs de l'école de Schema. Et voilà, donc les premières lignes du projet d'Amba ont été écrites justement sur les bancs de Sup de Colil.
Tu as pensé au projet avant de choisir le pays où tu pouvais le faire ou c'était tout un peu lié à...
Non, c'était vraiment le Sénégal parce que, encore une fois, j'allais régulièrement en vacances là-bas et j'avais rencontré Saer qui, pour moi, était la personne idéale pour... En fait, la réussite d'un projet, vous le savez, tu le sais aussi bien que moi, c'est sur les hommes qui le portent. Et j'avais avec Bernard la bonne personne en termes d'image et de sérieux et de vision. Et avec Saer, c'était la personne brillante, intelligente, qui connaissait le football, qui connaît très très bien le football, qui a des moyens, et le Sénégal pour moi était vraiment le pays où mettre en place le projet. Et on va me demander pourquoi pas au Bénin.
Je sais que c'est la question. Je l'ai pas posée, mais tu peux répondre.
Bon, je peux lui répondre. Pourquoi pas au Bénin? Parce que
parce qu'il y avait pas ça.
Entre autres, mais surtout parce que les conditions n'étaient pas réunies. La fédération, c'était une catastrophe. Rien ne se faisait là-bas. Le pays était dirigé. Disons qu'il n'était pas dirigé comme il est dirigé aujourd'hui.
Okay, c'est bien dit. Et Dombas a été je sais pas si c'est le mot, le succès, mais en tout cas, ça se développe, ça s'est développé assez rapidement. Et ça arrivait à des résultats très intéressants, aussi bien au niveau élite, c'est-à-dire les joueurs pros qui ont pu faire carrière, que la base, qui est d'éduquer les jeunes de l'académie.
Tout à fait. Alors, c'était vraiment l'objectif dès le départ de créer une structure où le football était un moyen plus qu'une fin. Même si beaucoup ont cru qu'il n'y avait que le football, les jeunes, quand ils sont arrivés, ont vite compris que c'était pas ça. Quand ils nous reprochaient, ils nous disaient ouais, on va plus à l'école qu'on joue au football. Mais on leur dit parce que l'école est plus importante que le football. L'école va vous permettre de devenir des hommes, d'être instruits, d'être éduqués, d'être formés. Le football va peut-être permettre à certains de gagner leur vie, mais pas à tous. Donc le plus important, et en plus, c'est aussi ce qu'il faut expliquer à ces jeunes, c'est pour ça qu'on parle d'éducation, c'est que le football est de plus en plus complexe, et pour réussir au plus haut niveau, il faut être structuré. Il faut être préparé. C'est pour ça quand on parle d'éducation, d'instruction, de formation, tout ça, c'est la base, c'est la condition sine qua non pour tirer le maximum d'un joueur. Je ne dis pas que si on ne passe pas par là, on ne peut pas réussir. On a des exemples de joueurs qui ont réussi au plus haut niveau sans une grosse instruction, sans une grosse éducation. Mais je suis de ceux qui sont persuadés que s'ils avaient été plus instruits, plus éduqués, ils auraient fait une meilleure carrière. Et ça, c'est une certitude. Parce que réussir une carrière, ce n'est pas seulement réussir sur le terrain. Pour moi, réussir une carrière, c'est réussir sur le terrain et réussir aussi à faire de ta vie une réussite. Et la réussite, elle n'est pas que sur le terrain. Elle est aussi familiale, elle est aussi sociale, Et si on n'a pas les bons outils, si on n'est pas câblé, si on n'est pas structuré, si on n'est pas éduqué, si on n'est pas instruit, si on n'est pas formé, je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver. Je dis juste qu'on ne tire pas le maximum. Et beaucoup de ceux à qui il manque un petit quelque chose ne vont pas passer. Alors que si ce petit quelque chose, il l'avait eu, il serait passé. Mais en fait, c'est surtout... Pour moi, c'est surtout aller là où tu veux aller. Pour moi, réussir sa vie, c'est justement aller là où on a envie d'aller. Et pour aller là où on a envie d'aller, il faut se donner les moyens. Et les moyens, c'est le sérieux, c'est l'éducation, c'est le comportement, c'est le respect. Enfin, c'est l'éducation, quoi. Pour moi, voilà, la base, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la base de tout. Mais c'est, encore une fois... La réussite, c'est pas forcément d'être le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. La réussite, ça peut être un des jeunes qu'on a formé et qui aujourd'hui est ingénieur, alors qu'il savait ni lire ni écrire quand il est arrivé à l'institut. Il parlait pas français, il savait ni lire ni écrire. Et aujourd'hui, il est ingénieur informatique réseau. Voilà, c'est
Et ça, et vous en avez plein des belles histoires comme ça.
On en a plein. Alors, on a des échecs aussi. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. On a aussi des échecs, mais on a beaucoup plus de belles réussites que d'échecs. Mais quand on crée les conditions pour que les gens réussissent, les échecs sont réduits.
On parlait un petit peu de cette époque qui continue, mais où il y a beaucoup d'agents qui tournent autour des joueurs, et notamment, comment ça se passe, la, la réalité en Afrique ou au Sénégal en particulier, ces vendeurs de rêves, comment, si tu peux me décrire un peu la vérité, la réalité du terrain.
Pour moi, honnêtement, c'est la gangrène. Je parle pas des agents, hein.
Ouais.
Je parle de ces agents-là.
Ouais, okay.
Je fais vraiment la différence parce que pour moi, les agents sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui et je l'ai vécu moi en tant que joueur. Je pense j'ai été assez longtemps sans agent jusqu'au jour où ma relation avec mes dirigeants, notamment à Lens, s'est un peu dégradée dans une négociation. Et là, on s'aperçoit qu'un intermédiaire est nécessaire. Alors que jusque-là, j'avais jamais eu d'agent.
Tu signais ton contrat tout seul.
Voilà, c'est moi qui négociais et je signais. Et bon, j'étais pas trop bête pour lire un contrat. Et quand j'avais des choses que je me posais des questions, je demandais à des avocats. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Pape Diouf, qui était devenu un ami avant d'être mon agent. C'était l'agent de Bernard et l'agent de pratiquement tous les joueurs africains. Et c'est devenu un ami avant d'être mon agent. Et le jour où j'ai commencé à avoir des problèmes justement dans la négociation avec le club, j'ai demandé à Pape et j'ai dit au club, dorénavant, il y aura une personne entre vous et moi parce qu'on ne peut pas avoir... en fait, dans la négociation, ils n'avaient pas été corrects. Voilà. Du coup, j'ai mis... Et là, je me dis que l'intermédiaire est important parce qu'il est difficile de parler d'argent, de parler de quand on est encore en train de jouer. Quand on doit jouer un match, quand on pense à l'argent, on pense au contrat à négocier et c'est beaucoup plus difficile de penser... Alors que quand quelqu'un s'en occupe, on délaisse complètement le sujet et on peut se concentrer sur la chose importante qui est notre métier. Donc, l'intermédiaire est nécessaire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'intermédiaires qui polluent la relation plutôt que d'intermédiaires qui la facilitent. Il y en a quelques-uns qui font bien ce métier. Par contre, il y en a beaucoup qui le font très mal, quoi. Pour moi, les mauvais intermédiaires, c'est ceux qui pensent uniquement à eux et pas aux joueurs. En disant ça, je ne mets pas toujours tout sur le dos des intermédiaires parce que les joueurs sont aussi responsables. Je vais vous donner l'exemple de Pape. Avec Pape Diouf, je n'ai jamais signé un contrat. Je n'ai jamais eu de contrat avec Pape Diouf. On était tous, et Pape ne signait pas de contrat, c'était juste sur la parole. Mais on était à une époque où justement cette relation était... voilà, de confiance, aujourd'hui, elle n'existe plus. Bon, de toute manière, légalement, maintenant, il faut avoir un contrat. Mais c'est à partir du moment où on a des gens qui pensent, des intermédiaires, des agents qui pensent plus à eux qu'aux joueurs qui doivent défendre, là, ça commence à devenir compliqué.
Et là, au Sénégal, vous faites comment pour éviter que les joueurs, ils ont des agents même quand ils sont dans votre académie ?
Non. Quand ils sortent, là, on a mis justement en place, et d'ailleurs, c'est un ancien stagiaire de Diambar qui a passé son diplôme, qui a fait des études, de hautes études, et qui a passé son diplôme d'agent et qui aujourd'hui s'occupe de nos joueurs.
Voilà. Ah, ok.
Voilà.
Ça reste
en famille.
En famille. Et justement, j'ai vu là que quand ils viennent de signer avec Marseille un accord de partenariat un peu plus poussé, je sais qu'il y a toujours une relation avec Marseille, mais ma première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ça bloque pas un peu parce que dans l'accord, ils disent que que Marseille peut choisir les meilleurs profils selon eux, mais ça bloque pas un peu justement les sorties et les possibilités de proposer des joueurs dans d'autres clubs qui peut-être seraient plus pertinents pour tel et tel joueur, je sais pas.
Alors, il faut savoir qu'au départ, on avait décidé de ne pas se marier avec qui que ce soit. Et au fur et à mesure des années, en fait, on s'est aperçu en commençant à discuter avec l'OM. Que ça pouvait être pertinent parce que financièrement c'était intéressant, parce que l'OM nous amenait un partenariat aussi technique qui était utile, donc avec des échanges au niveau des éducateurs, des entraîneurs, mais aussi médical, avec des échanges au niveau de nos kinés, nos médecins. En cas de blessure d'un de nos joueurs, on pouvait l'envoyer se faire soigner ici en Europe beaucoup plus facilement. Et aussi au niveau marketing. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir un club comme l'OM, on connaît leur développement marketing. Quand là-bas, on est seulement au balbutiement du football professionnel, ben on se dit qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et ça peut servir non seulement le club, mais aussi le football sénégalais et le football africain. Donc pour toutes ces raisons, on s'est dit qu'il y avait plus de raisons de signer ce type de partenariat plutôt que de ne pas le faire. Alors pour les joueurs, vous savez, quand un joueur, vous lui dites qu'il va aller à l'Olympique de Marseille, c'est quand même pas mal. Quand à 18 ans, vous sortez de l'institut et que vous allez signer dans un club comme Marseille, c'est quand même pas mal. Et c'est qu'une étape. Si véritablement il a le potentiel pour aller plus haut, pas derrière, c'est dans l'intérêt de Marseille aussi que de le laisser partir et de faire une plus-value. Et si plus-value il y a, bah, il y a un intérêt pour Dermar. Donc on a, pour le joueur, ça peut être une étape. Pour l'Institut, pour nous, économiquement et au point de vue du développement de notre projet, c'est du top. Donc tout le monde est gagnant.
Mais bon, après là, c'est technique. Mais s'il y a Salzbourg, Red Bull Salzbourg, qui sont très vraiment dans la formation, justement, qui attirent beaucoup de jeunes joueurs, ils ne pourraient pas aller là-bas, non? Si jamais Marseille les veut d'abord, c'est eux qui auraient...
L'Olympique de Marseille, dans notre contrat, a la priorité sur deux joueurs, nos deux meilleurs joueurs, voilà. Après, derrière, il y a...
Le troisième, il est quand même bon.
Bah le troisième, le quatrième, le cinquième. Si on travaille bien, le cinquième, le sixième peut être aussi très bon.
Donc, et en parallèle, parce que donc, l'objectif de la formation africaine, ce n'est pas forcément que les joueurs africains aillent en Europe. Il y a aussi une volonté, après chaque pays va être très différent, mais de développer le football local.
Alors, là-dessus, quand on forme des sportifs de haut niveau, c'est pour qu'ils atteignent le haut niveau. Donc tant que le haut niveau ne sera pas sur le continent africain, quand on forme des sportifs de haut niveau, on leur dit on cherche à ce que vous soyez les meilleurs, ils vont vouloir jouer dans les meilleurs clubs. Par contre, ce n'est pas parce que nos deux ou trois ou peut-être quatre meilleurs joueurs vont partir qu'on ne peut pas avoir localement des joueurs de qualité. La preuve en est, c'est que depuis 10 ans, plus de 10 ans, nos meilleurs joueurs s'en vont. Et actuellement, on est en tête du championnat. La signature de nos jeunes dans les différents clubs nous permet aujourd'hui de gagner de l'argent et de continuer à développer notre projet. Donc, il y a un véritable intérêt à ce que nos meilleurs joueurs viennent en Europe, permettent à nos équipes nationales de progresser, et ceux qui restent permettent aux championnats locaux de progresser. Là où on sera encore mieux, c'est quand nos meilleurs joueurs voudront aller dans les meilleurs clubs et que les meilleurs clubs seront en Afrique et non plus en Europe. Donc il faut tendre vers ça, il faut chercher à tendre vers ça. On en est loin, mais le tout-puissant Mazembe, quand il forme ses joueurs, quand il va chercher des joueurs, il leur donne les conditions qui ressemblent aux conditions qu'ils peuvent avoir en Europe, pas en termes de montant, mais en termes de d'infrastructure, en termes de... Alors, même en termes de montant, si on compare le coût de la vie en Europe et le coût de la vie en Afrique, ce qu'ils gagnent là-bas, à mon avis, le rapport est pas loin d'être celui qu'on peut trouver en Europe. Donc, l'objectif, c'est que dans quelques années, on puisse avoir des championnats et on tend vers ça. Je ne sais pas si vous avez suivi le CHAN, le dernier CHAN qui s'est joué au Cameroun. Qui a été excellent.
Pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le CHAN, c'est le championnat
d'Afrique des Nations.
Des Nations, mais avec que des joueurs qui jouent sur le sol africain.
Voilà, donc c'est en fait une une Coupe d'Afrique des Nations uniquement avec des joueurs locaux.
Ouais, voilà. Voilà,
pas de joueurs qui évoluent en dehors du continent africain.
Donc c'est une bonne, l'équipe qui gagne ce tournoi, c'est souvent ceux qui ont des bons championnats. C'est un peu lié.
C'est ça. Et en fait, ce qu'on a vu pendant ce CHAN, c'est une qualité des joueurs locaux qu'on n'avait pas vu, qu'on ne voyait pas avant. Donc c'est la preuve qu'on est sur la bonne tendance. Je ne dis pas que les championnats sont de qualité, parce que pour le moment, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais le fait que ce CHAN nous ait montré des choses intéressantes, pour vous dire, en Afrique, les gens disent aujourd'hui que le CHAN était d'une meilleure qualité que la CAN. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve, en fait, pendant ce CHAN, des caractéristiques du football africain, qu'on ne retrouve pas au CAN, parce qu'à la CAN...
C'est des joueurs européens qui ont déjà voilà. été stéréotypés.
Voilà. Alors, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je dis juste c'est intéressant de voir, d'analyser ça pour se dire, est-ce que le football de demain qu'on veut, nous, en Afrique, c'est le football qu'on voit en Europe stéréotypé, où tout est fermé, où tout est cadenassé, ou est-ce qu'on veut... un football qui ne correspond plus à la culture africaine, où c'est la fête, où c'est... Et si on vient aujourd'hui, c'est vraiment important, parce que dans la manière de former nos joueurs, c'est ce que je disais aux éducateurs quand j'étais à Dianmar, je disais, voyons ce qui se fait ailleurs, mais ne copions pas, ne faisons pas un copier-coller, parce que nous, en Afrique, on ne veut pas forcément de ce qu'on voit en Europe. Donc voyons prenons ce qu'il y a de bien et voyons comment l'adapter à ce qu'on est, donc c'est vraiment une réflexion qu'il faut qu'on mêle, parce que si demain on n'arrive pas à avoir le football que les Africains aiment, ils iront moins le voir. Et si on fait une pâle copie de ce qu'on voit en Europe, bah les gens préféreront aller voir, comme c'est le cas aujourd'hui, le Real, le Barça, le PSG. Alors, ça, ils iront toujours le voir. Mais si on arrive à leur donner du plaisir en ayant un football local de qualité, technique, vivant, qui correspond à ce qu'on est, on aura plus de monde dans les stades.
Bien sûr. Après, le problème, c'est que plus le temps passe, plus justement cette puissance de la télé, tout le monde regarde le championnat européen, tout est tourné vers cette puissance du foot européen.
Effectivement. Mais ce qu'il faut, et c'est ce que tu dis, il y a une vraie différence au niveau économique. Ce gap, il faut qu'on arrive à le combler. Et nous, on est l'exemple à Dianmar. Le fait d'avoir négocié avec l'OM et d'avoir aujourd'hui des moyens va permettre de réduire ce gap. Enfin, on est à des années-lumière de ce qu'est le football européen. On n'est pas, on se compare pas. Mais voilà, il faut qu'on progresse et qu'on arrive. Pour vous donner l'exemple de Dianmar, on a été à un moment, donc il y a 20 ans quand on a commencé Dianmar, et que nos premiers joueurs ont commencé à jouer. Beaucoup d'anciens disaient on va revenir au stade parce que on voit du jeu, et nos jeunes ça jouait, ça jouait en une touche, ça driblait, ils disaient on retrouve du jeu, et ça c'est l'essence même du football africain, et on a réussi à faire revenir du monde au stade, justement parce que on leur donnait du plaisir. Donc ça, si on arrive à le faire, demain, sans se comparer avec le Real, le Barça ou Manchester City ou Bayern, c'est une autre dimension. Mais créons chez nous les conditions pour que les gens aient envie de venir nous voir.
Et après, l'avantage qu'a l'Afrique avec d'autres continents et la plupart des pays africains, c'est que tu as la qualité du joueur. Jeune, comme justement Pascal Lafloriel, avec qui j'ai eu cette discussion, il me disait que Il rigolait, en France, quand il faisait les détections, il disait ah, il cherchait le bon joueur. Et en Afrique, les petits, quand ils faisaient les détections des 10-12 ans, ils disaient mais il est où le mauvais? Et donc, on part quand même d'une base très solide pour après, si tu fais bien les choses, arriver à donner du plaisir aux gens, tu peux avec cette qualité de joueur.
Ben, alors, ça, c'est ce que je dis. En fait, j'ai expliqué ça au chef de l'État, Patrice Talon, la fois où on s'était vu. Je suis au Bénin. Je disais, en fait, le football professionnel en Afrique, on peut le comparer à un process industriel dans lequel on a la matière première, c'est dont on parle, les talents à foison. Le client final, les gens qui aiment le sport, qui aiment le foot. Le problème, c'est qu'on est incapable de transformer cette matière première en un produit fini qui est un spectacle qu'on va vendre à des spectateurs ou à des téléspectateurs. Si on arrive à créer cette chaîne de valeur, on va créer des centaines de milliers d'emplois. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur un continent avec une démographie galopante, avec une jeunesse qui explose. Et si on ne trouve pas les moyens de trouver des emplois pour ces jeunes, ce qui aujourd'hui est une opportunité, cette jeunesse, risque de devenir une vraie menace. Or, le sport est un secteur d'activité qui plaît énormément à la jeunesse. Donc si on arrive à créer cette chaîne de valeur, on va créer de la valeur et on va créer des emplois pour des jeunes dans un secteur d'activité qui plaît à la jeunesse. Donc on a tout intérêt, et c'est pour ça que le président Talon, pour moi, a cette vision, c'est qu'il a compris, et d'ailleurs ce que fait la FIFA avec le Bénin, qui fait du Bénin une référence au niveau du sport à l'école, en travaillant sur le sport à l'école, sur les académies qui construisent, donc sur le haut niveau, sur la construction d'infrastructures, sur la réforme du sport professionnel, il est en train de mettre en place toute cette chaîne de valeur qui va demain répondre à une partie du problème de la jeunesse.
C'est super intéressant de le voir comme ça. Et aujourd'hui, quel championnat est plus regardé? Quel championnat, si on reste en Afrique de l'Ouest, est plus, un peu plus suivi?
Oui, alors c'est le championnat espagnol.
Non, mais je parle de, est-ce qu'il y a un championnat africain qui est un peu plus suivi que les autres? L'Ivoirien?
Honnêtement, non. Non. Ils ont essayé le championnat ivoirien, mais la qualité... c'est pas forcément la qualité des joueurs, parce qu'il y a aussi une qualité de joueurs, mais les terrains, c'est pas ça. C'est pas filmé comme... Enfin, voilà, les conditions sont pareilles.
Il n'y a pas un pays déjà qui a réussi un peu à justement, attirer un peu plus de spectateurs, téléspectateurs?
Non, parce que les championnats ne sont pas structurés. C'est pas...
Ça sera le Bénin dans quelques années.
En tous les cas, le chef de l'État fait ce qu'il faut pour, parce que les stades, les 22 stades qui sont construits, c'est 22 stades avec des terrains synthétiques. Donc, sur la qualité du jeu, ça va se ressentir. Il y a la construction de 6 centres de formation qui est en train de se faire, des centres de formation qui vont préparer les futurs joueurs. La réforme du football professionnel là-bas. Donc là, les conditions sont en train d'être réunies pour que demain, le championnat béninois soit un championnat qui puisse être regardé. Je ne dis pas qu'on y parviendra, mais en tout cas, les conditions sont...
Et parce que vous êtes reparti par la base, quoi. Les structures, la formation de cadres.
Si on ne passe pas par la formation des cadres, qui est pour moi la première chose, et nous, ça fait près de 10 ans qu'on n'a pas de formation de nos cadres, et ça, c'est préjudiciable pour le développement de notre football. Mais la formation des jeunes... donc il y a pas mal de centres de formation ou de pseudo-centres de formation qui se développent, mais sans véritablement de structure ou même de formateurs, quoi. Et ça, c'est... Il y a une volonté. Le savoir-faire, est pour moi, c'est, pour le moment, c'est ce qui manque.
Ok. Ouais, pour ceux, j'espère qu'on n'a pas perdu de les auditeurs. On est parti du Sénégal, là on parle du Bénin, parce que donc Jimmy, t'es le directeur, tu disais conseiller technique du ministère des Sports. Voilà. Ouais. Donc, tu le disais au début. Donc, voilà, on va jongler un peu entre tout ça. Après, tout est lié aussi parce que finalement, c'est le même objectif. Ou bon, tu es à deux niveaux différents parce qu'il y en a un, tu es vraiment focus sur une académie et l'autre est plus sur la structuration du sport d'un pays. Mais la base est la même.
Tout à fait. Et je dirais, c'est le rôle que j'avais au CPA. Au Conseil présidentiel pour l'Afrique. C'est le rôle que j'avais qui était plus global. C'est-à-dire que pour moi, la réussite du football et du sport africain, elle passe par une réussite globale. C'est-à-dire qu'on y arrivera, ou plutôt, on a plus de chances d'y arriver si on a plusieurs pays ou plusieurs structures qui se développent. Je vais vous prendre l'exemple de Diambar. Il y a 20 ans, on était tout seul. On a été suivi par Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur.
Génération Foot qui est l'académie liée avec Metz. Ouais.
Voilà, et qui fait un super travail, qui fait un travail depuis extraordinaire.
Longtemps aussi maintenant, voilà. Un peu après vous.
Voilà.
Mais...
Même, il y a des moments, ils font mieux que nous. Mais c'est parfait pour la concurrence et quelque chose de sain pour le développement du... Si on a uniquement pour objectif que nous, on soit... qu'on réussisse et pas les autres, le problème, c'est que le football dans notre pays ne se développera pas. Par contre, la réussite de Dakar Sacré-Cœur et de Génération Foot fait que le Sénégal, aujourd'hui, est en tête des pays africains au classement FIFA. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a 20 ans, on a commencé à travailler sur la formation et qu'on a été suivi. Et qu'aujourd'hui, même les anciens clubs comme Jeanne d'Arc ou les autres vieux entre guillemets, commencent à s'apercevoir que le travail au niveau des jeunes est important. Et le Mali qui travaille bien, le Burkina qui travaille bien, il y a au niveau des jeunes, et on commence à avoir des résultats, on le voit, et le résultat au niveau des châles, c'est ça.
Et au Bénin, est-ce qu'il y a une volonté, on continue à jongler entre tous les pays et tous les sujets, mais il y a une volonté d'essayer de créer une académie un peu comme Diamba, des académies privées, ou au contraire, tu es plus sur la réflexion d'avoir un centre de formation qui appartient à la fédération?
Alors, il y a une nécessité d'avoir des privés qui le... Voilà.
Tu es obligé de passer par là.
C'est une nécessité. Je pense que ce qu'on a fait avec Diambar ou ce qu'a fait Dakar Sacré-Cœur ou Génération Foot, c'est... l'État béninois, voyant que rien ne se faisait au niveau de la fédération ou au niveau des privés, a décidé de prendre les choses en main et a décidé de créer 6 centres de formation qui vont former des sportifs de demain. Ils l'ont fait parce que rien ne se faisait. Mais normalement, ce n'est pas à l'État de faire ça. Mais si la fédération ne travaille pas, ou mal, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte de créer les conditions pour que demain, le sport puisse se développer. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État et son gouvernement ont décidé d'investir massivement sur le sport en construisant des stades. Si derrière le projet, il n'y a pas de résultat sportif, on dira le chef de l'État a construit des éléphants blancs. Donc lui se dit, à juste titre, si ça ne se fait pas, voyons comment nous, l'État, on va pouvoir le faire. Et c'est, en fait, c'est ni plus ni moins que ce qu'on fait avec l'ENA. L'ENA forme ses cadres, ses grands cadres. Demain, le Bénin va former ses grands sportifs. Et le jour où c'est ce que faisait la fédération avec l'INF Clairefontaine ou Vichy avant, si demain les privés commencent à bien travailler, l'État se retirera et puis laissera faire les privés.
Un des précurseurs dans ces académies comme de base, c'est JMG.
Jean-Marc Guillou.
Ouais, on en parle beaucoup et peut-être souvent on vous compare ou on va souvent vous poser la question. Est-ce que toi, dès le début de ta réflexion sur quand tu voulais développer ce projet, tu avais analysé, parce que JMG, c'est un petit peu avant. C'était tout surtout dans les années 80, début 90, 94, non ? Donc un peu avant le développement de Diamba. Est-ce que tu l'avais beaucoup analysé ? Est-ce que c'était
Moi, je n'ai pas peur de le dire, c'était un exemple. Moi, dans ma tête, en fait, je connais Jean-Marc et on a des amis communs. Et à l'époque où j'étais encore joueur, où il a fait venir son équipe en France pour une tournée, j'étais allé les voir, ils jouaient du côté de Laval contre les éducateurs du Maine-et-Loire. Et donc Jean-Marc m'avait demandé de... Donc à l'époque, j'étais capitaine de l'équipe nationale du Bénin et je jouais à Lens. Et il m'avait demandé de leur parler. Donc j'étais allé dans le vestiaire et je leur avais parlé et je leur avais dit... je ne savais pas du tout ce que c'était. Vraiment, Jean-Marc m'avait juste dit, on fait ça, blablabla. Et est-ce que tu peux leur parler ? Donc je leur avais parlé et avant le match, je leur avais dit, montrez ce qui vous êtes et montrez... faites honneur au continent africain. Et quand j'ai vu, honnêtement, quand j'ai vu cette équipe jouer, j'en ai encore la chair de poule. Ouais. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est Jean-Marc qui a raison. Pour avoir analysé ce que faisait Jean-Marc, parce que j'étais allé voir aussi à Solbeli, pour moi, il manquait un volet par rapport à ce que je voulais faire, ce qu'on voulait faire avec Bernard et Saher et Patrick après. C'était vraiment le volet éducatif. Jean-Marc était vraiment sur un projet sportif. Non pas qu'il négligeait le côté éducatif, c'est pas ça. Hein. Mais il était vraiment sur un projet sportif. Et pour moi, en fait, je me suis toujours dit, parce que j'ai fait une carrière sans être passé par un centre de formation, je me suis toujours dit, si je devais mettre mon enfant dans une structure, et je voyais ce qui se passait en France dans les centres de formation où beaucoup de jeunes sortaient à l'âge de 18 ans sans rien, sans bagage, quoi. Et je me suis toujours dit, si je fais quelque chose, ça ne doit pas être ça. Et on s'est toujours dit avec mes trois associés, on s'est toujours dit, qu'est-ce qu'on ferait si c'était nos propres enfants ? Quand on part sur ça, on ne peut pas faire mal. Donc pour moi, il était complètement inconcevable d'avoir un jeune qui sorte au bout de 2 ans, qu'on lui dise t'es pas bon.
Bonne chance pour la suite.
Et ça, alors beaucoup nous ont dit ouais, mais tu pourras pas avoir de résultats, vous pourrez pas avoir de résultats parce que il faut écrémer, il faut. On est sur un autre projet. On recrute des jeunes à l'âge de 13 ans. L'objectif, c'est que à 18 ans, ils puissent devenir de vrais citoyens et qu'ils puissent trouver leur voie, que ce soit dans le football ou autre chose. Et nous, le challenge, c'était de démontrer qu'avec cette approche, on pouvait avoir autant, voire plus de résultats que les autres. Et on l'a prouvé. Et je vais te donner l'exemple d'un... Je ne citerai pas son nom, mais... Il y a un formateur que je devais prendre et qui est un ami. Donc, quand on a commencé à parler du projet, il me dit alors, la première année, on en prend 25. À la fin de la première année, on en vire 5. Et là, je lui dis attends, tu veux qu'on en recrute 25 la première année, tu en vires 5. Tu les vires pourquoi ? Il dit parce qu'ils ne sont pas. Alors, je dis le problème, c'est où tu t'es trompé dans le recrutement. Ou il était bon au départ et il est moins bon aujourd'hui parce que tu ne veux plus, mais quoi qu'il arrive...
C'est ta faute.
Donc s'il y a quelqu'un à virer, c'est toi que je vais virer, ce n'est pas lui. Donc on n'était pas, en fait, et je comprends très bien, sa réaction, elle était normale, c'est parce que c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Mais je lui dis, nous, ce n'est pas ce qu'on veut, le projet, il n'est pas là. Si on prend des jeunes, on assume les erreurs qu'on peut commettre, ou au niveau du recrutement, ou au niveau de la formation, parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il fallait. La seule raison pour laquelle on peut se séparer d'un jeune, c'est si le comportement n'est pas bon. Voilà.
Sinon, un jeune, en principe, si tu le prends à 13 ans, il reste jusqu'à ses 18 ans, voilà. Si tout se passe bien.
Le cas d'Ali, dont je parlais tout à l'heure, le talibé, au bout de 2 ans, je lui ai dit, écoute, Je me souviendrai toujours du jour où il est sorti de mon bureau, où je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu pourras pas devenir professionnel. Et comme c'est quelqu'un de croyant, je me souviens qu'il avait fermé la porte, il avait rouvert, et il m'avait dit, monsieur le directeur, il n'y a que Dieu qui sait. Et là, je lui ai dit, écoute Ali, je serais le plus heureux des hommes si tu devenais footballeur professionnel. Mais mon devoir, c'est de te dire que tu n'as pas ce qu'il faut pour. Maintenant, si tu me démontres que je me trompe, je serai le plus heureux des hommes. Et moi, je suis le plus heureux des hommes aujourd'hui de le voir ingénieur. Le Diambar a payé sa formation, a payé son appartement. On a tout payé pour qu'il arrive là où il est aujourd'hui. Et de voir ce qu'il est aujourd'hui, de voir qu'il fait partie d'une association, qu'il va aider les talibés là-bas, construire des écoles, enfin... Voilà, pour moi, ça, c'est la réussite.
Quand même, en règle générale, en France ou en Afrique, on se rend compte que les académies, ils ont mis quand même ce côté éducatif, l'éducation au cœur des projets. On voit, en tout cas, on peut être optimiste pour ça, non ? Dans la plupart des académies maintenant qui se créent, ou même l'évolution des académies ici aussi, en France, on voit que c'est vrai que vous étiez un peu précurseur, mais qu'aujourd'hui, heureusement, tout le monde a intégré ça. L'importance de cette partie de joueurs qui ne vont pas devenir professionnels.
C'est pour l'Afrique, je pense qu'on était précurseurs. Pour la France, je crois que les gens ont compris qu'en plus, ils avaient tout intérêt, un club a tout intérêt à développer, à éduquer et à instruire les joueurs. Parce que en fait, on s'aperçoit que le football est de plus en plus complexe. Et plus ça va, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les relations avec les supporters, même si on a moins dans les tribunes aujourd'hui, avec les agents, avec les dirigeants, si le joueur n'est pas structuré, à un moment ou à un autre, on peut le perdre. Donc je crois que les clubs ont compris ça, mais à un moment, moi je peux vous dire que je ne citerai pas le club, mais il y a un club où j'ai joué, où un des dirigeants a dit un jour à mon agent, tu diras à Jimmy qu'il arrête de jouer un peu les syndicalistes. Et c'est complètement absurde, parce que en fait, plus la relation est bonne entre les joueurs et les dirigeants, plus les... meilleurs seront les résultats.
Joueurs, dirigeants et supporters.
Et supporters. Et en fait, pour moi, un club, il y a quatre choses. Il y a le joueur, les dirigeants, les supporters. Et une chose qu'on oublie souvent, c'est l'encadrement administratif. On le met souvent de côté, mais je peux vous dire que cette période des années 90 à Lens, le club faisait qu'un. Et nous, joueurs, on allait voir les administratifs, les commerciaux. Il y avait une symbiose. Et quand un commercial va vendre le club et qu'il y a cette relation avec le joueur, et que quand il fait appel au joueur, le joueur est là et qu'il va l'aider, on sent cette dynamique. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui nous a amené à être champion derrière. Et au moment où on commence à perdre ça, pour moi, on perd un peu l'âme du club. Et l'âme du club du Racing Club de Lens qu'on retrouve aujourd'hui.
Bon, voilà, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on sent un peu ça, non ?
Ben voilà, c'est ça. Et on retrouve exactement ce qui a fait la réussite du Racing Club de Lens des années 90. L'humilité, le travail, le dépassement de soi, enfin, qui est un peu l'ADN du Racing Club de Lens, parce que c'est l'ADN des c'est l'histoire du club, c'est les mineurs, les gens qui quand ils vont au charbon, ils vont au charbon, quoi. On y va vraiment, et puis la solidarité, la fraternité, les gens, quand ils vous parlaient de qui descendaient dans la mine, ils disaient on remonte pas si tout le monde n'est pas là, quoi. Et ça, c'est quand on arrive à recréer ça, et qu'on arrive à recréer cette ambiance ou ces valeurs-là autour du club, que ce soit des dirigeants, et avec Gervais, avec Serge Doré, qui était le directeur général à l'époque, avec Patrice Berg, l'entraîneur, ou tous les entraîneurs qui sont passés, Arnaud Dos Santos, Daniel Leclerc, Roger Lemaire, tout ça sont des gens qui incarnaient ces valeurs-là. Et quand on arrive justement à créer dans un club ces liens entre les dirigeants, les supporters, les joueurs et les employés, je vous dis, c'est le top. Et tout le monde se... Quand vous perdez un match et que vous avez les employés qui sont là, c'est pas grave, ou les commerciaux qui sont là, ça vous porte, quoi. Et quand vous donnez tout à des supporters, et c'est ce qu'on voyait, je parle de Sico ou d'Eric Sicora à l'époque, ou moi quand on était sur les côtés, ou Roger Bolli, ou ça vous transporte. Et quand à la fin de l'entraînement, vous allez les voir, vous plaisantez avec eux, vous créez cette relation. Et quand on casse cette relation, pour moi, on casse quelque chose. Et c'est l'erreur qu'on a pu commettre au Racing Club de Lens. Après qu'on a été champion, il y a eu... on est sorti un petit peu de cette relation. Les supporters n'avaient plus le droit de venir aux entraînements, alors que... quelques années avant, on les entendait sur le bord de la touche, ça chambrait quand... Ça vivait. C'était une famille, c'était... Et quand on commence à mettre les joueurs sur un piédestal, ils ne vivent plus le club comme il doit être vécu.
Mais tu crois qu'aujourd'hui, c'est possible encore ?
Ce que Franck Hez, tu vois un petit peu ce qu'est... Franck, il est sur ces valeurs-là. Au Gourlion, le président, il est sur ces valeurs-là. C'est pas parce qu'il a de l'argent. C'est pas une question d'argent. Hein.
Ouais, vraiment,
c'est vraiment les valeurs.
Mais voilà. Dans le foot, OK, il y a cet exemple de Lens où on se dit, déjà, je pense pas que c'est exactement le même Lens qu'à ton époque. Mais dans...
On tend pas vers ça, mais qu'est-ce qui nous empêche de revenir vers ça ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Moi, je dis toujours que ce qu'on est en train de vivre avec, malheureusement, cette pandémie... va nous ramener à un certain nombre de valeurs. Je me trompe peut-être qu'en en sortant, on aura tout oublié, mais je pense que on aura pris une belle claque et que revenir à un certain nombre de bases et de valeurs, ça devrait nous permettre de sortir par le haut.
Toi, tu dis, ouais, je suis d'accord avec toi, et tu disais, c'est pas forcément lié à l'aspect financier, mais là, je pense que la pandémie va faire que quand on a moins de facilité financière, on se pose peut-être des meilleures questions, et c'est là où cet aspect de valeur peut revenir.
Je pense. Alors, encore une fois, j'ai pas la certitude qu'on y arrivera, mais et je pense que ceux qui se poseront les questions et qui tendront vers ça auront plus de chances de réussir. J'y crois vraiment.
Qu'est-ce que le joueur de foot que tu as été, lensois, ce que tu as pu apprendre dans ta carrière, surtout à Lens, ça t'a apporté pour la suite de ta carrière ?
Alors d'abord, pour moi, la réussite, c'est la rencontre des valeurs qu'on a personnellement. Et moi, j'ai été éduqué sur certaines valeurs. Et que j'ai rencontré à Lens. Et du coup, on est vraiment en totale osmose, en adéquation. Et quand on donne, on reçoit. Et du coup, on a encore de plus donné et on reçoit plus. Donc, il y a cette relation qui. Et ce que j'ai vécu à Lens, qui m'a permis de réussir derrière, c'est la rencontre de gens, une région où les gens donnent une importance à ces valeurs. Et que ce soit les supporters avec lesquels j'ai vécu des choses extraordinaires, mais aussi, et là c'est en ça que ça m'a servi par la suite, avec les sponsors. Et cette relation que j'ai pu avoir avec les sponsors, qui m'a aussi permis de découvrir le monde de l'entreprise. Et J'ai un souvenir, on avait quelque chose qui était extraordinaire après les matchs. On se retrouvait avec les sponsors, on appelait ça le chalet à l'époque. Donc tous les sponsors, on se retrouvait et on avait toujours une petite soirée sympa. Et les échanges que j'avais avec les dirigeants ont été d'une richesse incroyable pour la suite. Et il y a un dirigeant qui un jour m'a dit « Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes important pour mon entreprise. » Alors je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il dit ?» Et il dit « En fait, quand vous avez des résultats, la productivité de nos employés, elle grimpe de manière incroyable. Parce que les gens viennent avec le sourire, ils ont envie, lance à gagner. Et ça, on ne se rend pas compte de ça. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Alors, au-delà de ça, c'est vrai que la notoriété, forcément, ça aide. Diambar, on ne l'aurait jamais réussi si je n'étais pas passé par Lens. Parce que alors, cette notoriété, on l'a eue. Et on a aussi créé les conditions pour qu'on soit suivi derrière par la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai souvent l'habitude de dire, en fait, notre notoriété nous ouvre des portes. La seule chose, c'est que pour les laisser ouvertes, il faut faire les choses. Sinon, on les prend en pleine figure assez rapidement. Donc voilà ce que ça m'a apporté. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que si... Si je n'étais pas passé par Lens, si Bernard n'avait pas eu la carrière qu'il a eue, si Patrick n'avait pas eu la carrière qu'il a eue, jamais on n'aurait été suivi comme on a été suivi. Ça, c'est clair.
Je voulais remercier Édouard Lemus. C'est grâce à lui, donc Édouard qui fait partie de l'association Diambar en France.
C'est un Diambar, Édouard.
Ouais, voilà. Et il m'a dit une phrase que quand il t'a demandé si tu pouvais participer à ce podcast, tu lui as dit je peux pas refuser un Diambar. Et bon, je pense que c'est un beau symbole de quitter et de ce que vous faites à Diambar. Donc en tout cas, merci beaucoup.
Merci Hugo.
Ouais,
merci.
C'était génial et j'espère qu'on se reverra bientôt et je te souhaite que des bonnes choses pour toi, ta famille
merci.
Et pour tous les jeunes à l'académie et au Bénin.
En tout cas, ce sera toujours un plaisir de venir échanger. Sur notre passion.
Voilà, exactement. Merci beaucoup.
Ciao.
Salut. Échanger avec Jimmy a été un réel privilège, un moment riche et un éclairage sur le foot africain et les relations franco-africaines. Durant cette discussion, j'ai senti que Jimmy était devenu bien plus qu'un ancien footballeur reconverti dans le sport et la politique. En véritable sage, il arrive à délivrer les bons messages sur l'éducation et les enjeux socio-économiques. Cela lui permet de guider et d'ouvrir des portes à toute une jeunesse africaine. J'en profite pour remercier Édouard Lemut, qui fait partie de l'association Diambar en France et qui est à l'origine de cette rencontre. Voilà, vous venez d'écouter le 12e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt !